Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Devoir et la Presse. Au programme, ChatGPT et l'enseignement de l'ignorance, discrimination et racisme systémique ou l'art de tourner en rond. Jean-Claude Allard, 95 ans, personnage certifié. Et passe droit aux techno-disruptives. Bonne écoute!
ChatGPT et l'enseignement de l'ignorance. Un texte d'opinion d'Éric Martin, professeur de philosophie au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, paru le 21 décembre 2022 dans Le Devoir. Récemment, les journaux nous ont appris, d'une part, que des apprentis sorciers ont cru judicieux de créer une intelligence artificielle capable de rédiger des travaux scolaires à la place des étudiants. D'autre part, on a appris que ces mêmes jeunes, pandémie aidant, sont désormais incapables de maîtriser la langue, voire de développer une autonomie élémentaire. Certains, en effet, n'arriveraient pas à trouver la cafétéria ou la librairie, même après plusieurs semaines. D'autres magasinent sur Amazon pendant leurs cours ou peinent à comprendre qu'on ne se rend pas à l'école en pyjama. D'un côté, donc, on nous vante des machines de plus en plus autonomes, pendant que les étudiants le deviennent de moins en moins. N'est-ce pas le signe qu'on tente de nous imposer quelque chose d'assez grave? Bêtise et savoir. Certes, quelques illuminés de la technopédagogie proposent d'intégrer au plus vite ChatGPT dans les classes. Mais la plupart des professeurs que je connais sont actuellement très préoccupés et s'affairent à réviser leurs modalités d'évaluation pour tenter de contrer les risques de tricherie ou de plagiat. Ce n'est cependant pas la chose la plus préoccupante. Un étudiant dont le travail a été rédigé par une machine n'a pas compris, au sens d'intérioriser, la matière, mais a plutôt demandé à une machine de se substituer à lui. Nous sommes ici face à une dynamique très inquiétante dont nous peinons à prendre la pleine mesure. Plus les machines sont intelligentes, plus nous devenons bêtes sans elles, et cela au moment même où nous devrions favoriser le développement d'une conscience citoyenne sensible aux diverses crises qui affectent aussi bien les sociétés que la nature. Du citoyen actif à la machine intelligente. Plusieurs auteurs, comme Gunther Anders, Michel Freitag ou Bernard Stiegler, pour ne nommer que ceux qui me viennent à l'esprit, ont identifié une mutation fondamentale entre les sociétés modernes et postmodernes. Dans la société moderne, l'idéal scolaire vise à former des citoyens dont la République a besoin, capables de l'usage public de la raison. Comme le disait Victor Hugo, « Je veux que l'échelle de la science soit fermement dressée par les mains de l'État » posés dans l'ombre des masses les plus sombres et les plus obscures, et aboutissent à la lumière. Je veux, ellipse, que le cœur du peuple soit mis en communication avec le cerveau de la France. C'est donc dire que l'idéal du citoyen actif, éclairé, cultivé, autonome et doté de la faculté de juger est au cœur de l'idéal du projet moderne. Dans la société postmoderne, la régulation des sociétés quitte le terrain de la politique pour être déléguée à des systèmes, marché mondial, réseaux informatisés, algorithmes, etc. Ces systèmes sont de plus en plus appelés à décider à notre place, dans tous les domaines. Ceci participe d'un phénomène d'extériorisation par lequel nous nous déchargeons de certaines aptitudes pour les confier à des machines extérieures. On peut penser à l'exemple du GPS. Mon téléphone intelligent sait maintenant le chemin du chalet, mais sans cette béquille, je n'arriverais peut-être plus à m'y rendre par cœur. Ainsi, plutôt que d'avoir intériorisé la connaissance de manière autonome, je dois m'en remettre de manière hétéronome à des systèmes extérieurs qui pensent pour moi. L'idéal du citoyen éclairé cède la place à celui de l'individu techno-assisté, dépendant des nouvelles prothèses techniques qui pensent à sa place. Un étudiant peut très bien demander à un robot de rédiger une dissertation sur la République de Platon et ainsi réussir son cours. Mais à la fin de l'opération, il ne sera pas plus savant ni autonome. Il le sera moins, beaucoup moins. Il faut se demander qui, quelle classe a intérêt à favoriser un tel enseignement de l'ignorance, Mikea, à former des gens incapables d'exercer l'autonomie sur le plan individuel et collectif, c'est-à-dire politique, pour s'en remettre plutôt au pilotage automatique du capitalisme globalisé et informatisé. S'enfermer à double tour dans la caverne. Selon la formule d'Anders, il n'y a plus des hommes entourés de machines, mais des machines entourées d'hommes. La marche du monde est de plus en plus confiée, suivant le projet de l'élite économique et technocratique, à des systèmes autonomes, ceux du capitalisme cybernétique. Cependant que l'idéal du citoyen autonome est remplacé par celui de l'individu adaptatif qui se conduit et se divertit à partir de signaux projetés sur des écrans par des algorithmes. Il semble que, plutôt que de sortir de la caverne de Platon, nous avons collectivement choisi de nous y enchaîner en rendant encore plus sophistiquées les machines qui produisent les ombres qui nous endorment. Hannah Arendt demandait une chose très simple. Rien de plus que de penser ce que nous faisons. La banalité du mal découle en effet de l'absence de pensée. Or, le monde actuel court à la catastrophe à cause du capitalisme et des machines, mais nous ne faisons rien parce que nous regardons le spectacle en laissant de plus en plus les machines penser à notre place, jusqu'en éducation, où l'on devrait pourtant former des citoyens actifs. Ce que la classe dominante est en train de faire, à la planète comme en éducation, est profondément irrationnel. Nous ne pouvons pas continuer d'abandonner la direction du monde au système de technocapitalisme et nous ne pouvons pas non plus laisser l'éducation entre les mains des robots et de l'élite technocratique qui en fait la promotion active. Comme le disait Warren Buffett, il y a une lutte des classes, bien sûr, mais c'est ma classe, celle des riches, qui fait la guerre. Et nous gagnons. En clair, il faut non seulement résister à l'invasion de l'intelligence artificielle en éducation, mais aussi reprendre démocratiquement le contrôle de ce qui meut le monde, qui est après tout une affaire trop importante pour le laisser entre les mains des machines et de ceux que Jean-Jacques Pelletier a appelés les gestionnaires de l'apocalypse. C'était ChatGPT et l'enseignement de l'ignorance, un texte d'opinion d'Éric Martin, paru le 21 décembre 2022, dans Le Devoir. Discrimination et racisme systémique ou l'art de tourner en rond. Un texte d'opinion de Pierre Lepage, paru le 20 décembre 2022 dans Le Devoir. L'auteur est anthropologue et auteur de « Mythes et réalités sur les peuples autochtones ». Le 3 décembre dernier, l'organisme Femmes autochtones du Québec tenait un grand rassemblement devant l'Assemblée nationale, réclamant au gouvernement du Québec qu'il reconnaisse l'existence du racisme et de la discrimination systémique au Québec à l'égard des Autochtones et plus particulièrement des femmes autochtones. À cette occasion, l'organisme invitait la population à signer une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale afin d'appuyer cette démarche. Soulignant que cette manifestation faisait suite au dépôt d'un rapport de recherche troublant et bien documenté sur de nombreux cas de stérilisation imposée aux femmes des Premières Nations et Inuits au Québec. Avouons que l'interminable débat actuel sur l'existence ou non du racisme systémique au Québec a pris une tournure désolante. On tourne en rond. Or, la question n'est pas de savoir s'il s'agit d'une réalité qui existe vraiment, mais plutôt en quoi ces notions de discrimination systémique et de racisme systémique peuvent nous être utiles. Abordons dans un premier temps le concept de discrimination systémique. Il a été largement utilisé au Québec et ailleurs au Canada à partir des années 1980. Il n'a rien à voir avec ce que l'on pourrait considérer comme une discrimination systémique délibérée issue des plus hauts niveaux des organisations ou des institutions de notre société. Le concept juridique de discrimination systémique est utile précisément parce qu'au lieu de s'attarder aux auteurs des agissements et aux strictes relations interpersonnelles, on se concentre plutôt sur ce qui est à la source des inégalités au sein même des structures de notre société. C'est ainsi que, dans le jargon des droits de la personne, on distingue généralement trois formes de discrimination. Celle dite directe, la discrimination indirecte et la discrimination systémique. Ces concepts n'ont rien de nouveau. En ce qui concerne la discrimination systémique, les tribunaux l'ont définie de la façon suivante. Ellipse. Comme la somme d'effets d'exclusion disproportionnés qui résultent de l'effet conjugué d'attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres des groupes visés par l'interdiction de discrimination. CDPDJ, C, Gaz métropolitain, incorporé, 2008. La discrimination systémique n'est pas un système organisé. Elle est insidieuse, car elle se cache dans un ensemble de règles, de procédures et de lois en apparence neutre, mais qui génèrent des effets d'exclusion et de traitement défavorables, portant ainsi atteinte au droit à l'égalité. Dans un rapport rendu public en 2020 en marge d'une consultation qu'elle a effectuée au sujet du profilage racial, la CDPDJ faisait la mise en garde suivante. Le fait de dresser le constat de la discrimination et du racisme systémique au Québec ne signifie pas que les personnes et la société dans son ensemble sont systématiquement racistes. Bien souvent héritées du passé, les différentes manifestations du racisme et de la discrimination systémique, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, sont le fruit de lois, de règlements, de politiques, de pratiques, de processus décisionnels, de manières de faire et de décisions. Reconnaître le caractère systémique du racisme et de la discrimination, c'est reconnaître l'existence des obstacles structurels persistants qui nuisent à la participation et à l'inclusion de tous. En ce sens, il convient de ne pas les réduire à quelques actes individuels et isolés. Pedneau et Tricky-Yamani, 2020. Quant à la notion de racisme systémique, largement galvaudée dans le débat public actuel, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse suggère les éléments de définition suivante. En somme, on comprend le racisme systémique comme un phénomène qui tire son origine de rapports de pouvoir inégalitaires historiques ayant façonné à divers degrés la société, ses institutions, normes et pratiques, ses représentations, ainsi que les relations sociales et pratiques individuelles qui y prennent place, contribuant ainsi à la reproduction dans le temps des inégalités racistes et la persistance des dénis de droit en découlant. Le racisme systémique désigne un rapport social inégalitaire, constitué de dynamiques d'infériorisation, de subordination et d'exclusion issues de l'organisation sociale qui impose aux groupes racisés, notamment aux communautés noires et aux peuples autochtones, un cumul de désavantages dans différentes sphères de leur existence. Éducation, travail, logement, santé, sécurité publique, système de justice, etc. CDPDJ 2021. Enfin, limiter la réalité de la discrimination et du racisme à une série de rapports interpersonnels ou à des écarts de comportement est une vision réductrice qui n'a plus sa raison d'être au Québec. Les concepts de discrimination systémique et de racisme systémique nous permettent d'aller plus loin dans la compréhension du phénomène et dans la recherche de solutions appropriées. C'était « Discrimination et racisme systémique » ou « L'art de tourner en rond », un texte d'opinion de Pierre Lepage, paru le 20 décembre 2022 dans Le Devoir.
Jean-Claude Allard, 95 ans, personnage certifié. Un texte d'opinion de Ariane Kroll, paru le 28 décembre 2022 dans la presse. On connaissait les certifications d'origine pour les vins, les diamants ou les fromages. Voilà que des villages québécois commencent à décerner un sceau d'authenticité à des personnalités phares de leur communauté. À l'accueil Saint-Roch, à Saint-Roch-de-la-Chigan, une résidence pour aînés, RPA de Lanaudière, on n'attend pas Noël pour chanter les beautés du sapin ou le vent sifflant soufflant. À la fin novembre, déjà, une vingtaine de résidents enchaînaient les classiques entraînés par l'accordéon de Jean-Claude Allard. Dans le temps, quand on était sur une ferme, chacun faisait sa soirée de chant et de danse. Moi, je m'assoyais avec les musiciens et je me disais, moi aussi, un jour, je jouerai, raconte M. Allard, l'œil pétillant. Ce Benjamin d'une famille de 10 enfants n'a pas attendu longtemps. Mon frère montait un voyage de patates à Montréal et je lui ai demandé de m'acheter un petit accordéon. J'avais 7 ans quand j'ai commencé à pitonner. C'était il y a 88 ans. M. Allard, qui ne fait pas ses 95 ans, vient jouer ici chaque semaine. Le chant, ça enlève l'anxiété, ça libère, s'enthousiasme la propriétaire de la RPA, Françoise Bonchimol. Chaque après-midi, M. Allard sort marcher sur la terre boisée de 45 arpents qu'il a mise, elle aussi, au service de la population locale. Lorsqu'il l'a acquise en 1966 de son frère propriétaire d'une scierie, c'était plutôt une terre déboisée. Il restait juste des petits arbres. Je me suis mise à faire le ménage là-dedans et j'ai gagné le premier prix au concours du mérite forestier en 1983. Agriculteur, propriétaire d'une maternité porcine, il amenait sa famille de 7 enfants faire du ski de fond au bois. Je passais l'avant-midi avec mes cochons et l'après-midi, je venais au bois et j'étais heureux. Il y a une 30aine d'années, il s'est entendu avec la municipalité pour ouvrir les lieux à la population en échange d'un coup de main pour entretenir les sentiers. Le site, baptisé les Skiffonneux, attire des dizaines de visiteurs le week-end. La cabane bâtie par M. Allard et ses fils est accessible en tout temps. Sur l'une des fenêtres, comme sur l'accordéon de M. Allard, on remarque le même autocollant orné des lettres COA, création d'origine achiganoise. La certification lancée par la municipalité a reconnu des produits locaux, comme du miel ou des linges de vaisselle, mais aussi M. Allard. J'ai pas couru après ça pantoute, mais ça fait un petit velours. Reconnaît le nonagénaire avec un sourire en coin. Le bois a changé de propriétaire au fil des ans, mais il est toujours géré par des bénévoles, dont l'une des filles de M. Allard, Raymonde. La municipalité aimerait acquérir le site. Saint-Roch est l'un des plus récents villages qui se sont dotés de cette certification créée à Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie, en juillet 2019. C'est un projet très à la bonne franquette. On a réduit l'officialité d'une certification et on l'a remise à notre grandeur, dit Isabelle Héroux, propriétaire de la boulangerie artisanale du Bon Pain Croûte que Croûte de Saint-Élie-de-Caxton. Madame Héroux a lancé le projet avec le célèbre conteur Fred Pellerin. La certification doit être gratuite. Et le premier critère stipule que la personne à l'origine du produit ou du service certifié doit démontrer un sens de l'humour aiguisé dans ses gestes quotidiens, en plus d'avoir à cœur le bien-être de sa communauté et le bonheur des autres. Parmi les premiers certifiés FOC, fabrication d'origine caxtonienne, on trouve des produits gâteau à la mandarine, pain baguette, jardinière de tomates cerises, etc., mais aussi un personnage, rockeur, le pelleteux, du village, qui déneige les entrées à la pelle. 5 autres villages ont déjà créé leur certification, et au moins 3 autres songent à le faire. La certification de personnage est la plus touchante. Ils sont tous très colorés, témoigne Madame Héroux, qui participe à chaque lancement avec Fred Pellerin. Les produits originaux de Petit Saguenay, Pops, ont certifié Gabriel Hood qui, vêtu d'un costume rappelant celui d'un policier de bande dessinée, rend d'innombrables services. Chaque fois qu'il y a un événement, il gère la circulation et le stationnement, un poste que les bénévoles n'ont pas envie de faire parce que c'est loin de la musique. Cite en exemple la directrice du développement de la municipalité, Corinne Asselin. à Saint-Justin, à une demi-heure de Saint-Élie, les frères Marc et Henri Masson, bénévoles depuis des décennies, ont été certifiés FOJ, fabrication d'origine justinienne. En plus d'entretenir les sentiers de motoneige et les terrains de tennis, Marc Masson a entrepris de restaurer le terrain de baseball laissé à l'abandon. « C'est plus que du bénévolat. Il faut que je paye. Mon tracteur, ça ne marche pas avec des prières. » Blague M. Masson au téléphone. « Pour moi, ça n'a pas de prix, s'empresse-t-il d'ajouter. Ça m'a touché au cœur quand j'ai vu des jeunes qui se lançaient la balle avec un bâton et un gant un peu partout dans le village, alors qu'on a un super beau grand terrain de balle avec un éclairage que bien des clubs aimeraient avoir. » C'était Jean-Claude Allard, 95 ans, personnage certifié, un texte d'opinion de Ariane Kroll, paru le 28 décembre 2022 dans la presse.
Passe droit aux techno-disruptives. Une chronique de Pierre Trudel, parue le 20 décembre 2022 dans Le Devoir. Comme tout objet performant, les outils carburant aux données massives, Big Data, ou à l'intelligence artificielle, IA, peuvent rendre de grands services. Ils peuvent aussi être utilisés pour nuire. Le recours tous azimuts à des technologies disruptives est facilité par les retards à mettre les lois à niveau. Des dispositifs permettant de créer de faux comptes, de fausses images, de générer des textes qui ressemblent à s'y méprendre à d'authentiques nouvelles ou des travaux académiques véridiques peuvent être utilisés sans égard aux lois. En décembre 2022, Alain McKenna faisait en ses pages état de formidables possibilités de générateurs de faux portraits et de portraits stylisés comme l'application Lensa AI, qui peuvent faciliter la tâche de ceux qui diffusent de fausses informations sur Internet. Quelques jours auparavant, on apprenait que le compte Twitter de Guya Lepage, l'une des personnalités publiques québécoises les plus suivies sur le réseau, avait été piraté. Chaque jour, des faussetés délirantes se répandent à la manière des virus sur les réseaux sociaux. Sans parler du harcèlement sur les plateformes en ligne qui, comme l'exposait en juin dernier l'étude du Conseil du statut de la femme du Québec, affecte majoritairement les femmes. Beaucoup de ces pratiques délictueuses sont facilitées par l'usage non encadré de dispositifs technologiques disruptifs, dits « intelligents ». À moins de se résoudre à subir la dislocation de la paix sociale, la mise en place de règles adaptées et efficaces est une urgence. On tend à gober comme une vérité qu'il serait illégitime pour les États d'appliquer leurs lois à ce qu'il se passe sur Internet. Comme si le fait d'accepter que le milliardaire Elon Musk censure à sa guise était un gage de démocratie. Le mois dernier, lors d'un atelier au congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, des journalistes résignés déploraient que les interdits de publication prévus par les lois afin de protéger les enfants et les victimes sont ignorés par des gens qui diffusent en ligne des renseignements qu'il est interdit aux médias conventionnels de diffuser. Or, à moins d'accepter d'abandonner les lois destinées à protéger les personnes vulnérables, on ne pourra longtemps tolérer que les règles qui interdisent une pratique sur la terre ferme cessent de trouver application lorsqu'on est sur Internet, ou lorsqu'un objet technique nouveau vient tout déjouer. À quoi rime de conserver des lois interdisant aux médias d'identifier un enfant victime de crime si on ne trouve pas le moyen d'appliquer ces règles dans les espaces d'Internet? Des devoirs. Il est utopique d'imposer aux réseaux sociaux comme Twitter des obligations analogues à celles incombant aux médias conventionnels. L'ampleur du trafic interdit d'envisager d'obliger les réseaux sociaux à modérer a priori chaque élément d'information qu'un usager décide de mettre en ligne. Cependant, il devrait être tenu d'identifier et de gérer les risques associés aux activités qui se déroulent avec leurs dispositifs. À défaut de démontrer que des précautions raisonnables ont été prises afin de gérer les risques, il devrait être tenu responsable des dommages engendrés. La législation européenne sur les services numériques, à ce jour la plus avancée dans le monde occidental, prévoit d'obliger les plateformes à identifier et à gérer les risques systémiques tels que la manipulation ou la désinformation. Avec l'entrée en vigueur de ces règles, les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche seront tenus de prévenir l'utilisation abusive de leurs systèmes. Chez nous, il est urgent de mettre en place des lois pour imposer des obligations de rendre compte à une instance experte fonctionnant en toute transparence. Il faut aussi garantir que les mesures de gestion des risques n'engendrent pas de censure qui irait au-delà de ce que les lois interdisent. Le public doit être protégé contre la tentation des entreprises de tomber dans la facilité et d'appliquer des restrictions plus strictes afin de se débarrasser à bon compte de leurs obligations. De même, il faut prendre garde de ruiner la légitimité de mesures pour appliquer les lois aux situations en ligne en tentant de proscrire tout ce qui déplaît aux uns et aux autres. Dans une société démocratique, ce sont les lois qui imposent des limites proportionnées aux libertés expressives, pas les inconforts de tout un chacun. Les espaces publics en ligne appartiennent à des entreprises commerciales. Celles-ci génèrent des revenus en valorisant les innombrables données produites par l'activité de tous ceux et celles qui interagissent dans le monde connecté. L'analyse de ces données permet de générer des profits en faisant fonctionner plusieurs dispositifs d'IA ou de faire des publicités ciblées vers les usagers présents sur Twitter et les autres réseaux sociaux. Le droit de ces entreprises d'utiliser pareilles ressources doit-il demeurer sans contrepartie? À moins de se résoudre à oublier les exigences de protection de la dignité humaine, une société démocratique doit imposer des limites aux entreprises générant des profits avec des espaces publics carburant aux ressources produites par tout un chacun. C'était « Passe droit aux techno-disruptives », une chronique de Pierre Trudel, parue le 20 décembre 2022 dans Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visivoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Luc Mercure et Robert Chartier à la lecture, André Lebeau et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.